VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, des accords ouverts entre le président Jacob Zuma et le vice-président Cyril Ramaphosa, qui a jugé ce vendredi inacceptable le limogeage du ministre des Finances Pravin Gordhan dans le cadre du remaniement gouvernemental annoncé dans la nuit par le chef de l'État. Le sort de M. Gordhan, qui s'opposait depuis des mois au président Zuma autour de la bonne gestion des deniers publics, provoque de vives tensions au sein du Congrès national africain, l'ANC au pouvoir. Le parti de Nelson Mandela, qui dirige l'Afrique du Sud depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994, est très divisé au sujet de la succession de Jacob Zuma, qui doit quitter la présidence de l'ANC en décembre prochain dans la perspective des élections générales de 2019. Le chef de l'État soutient la candidature de son ex-épouse Nkosazana Dlamini Zuma à ce poste face à l'autre favori, Cyril Ramaphosa. Au Mali, l'état d'urgence en vigueur quasiment sans interruption depuis 16 mois est prorogé à partir de ce vendredi pour au moins 10 jours. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Cette mesure d'exception a été renouvelée à plusieurs reprises depuis l'attaque djihadiste contre l'hôtel Radisson Blue de Bamako le 20 novembre 2015, attaque qui avait fait 20 morts, outre deux assaillants tués. La dernière prorogation de 6 mois de l'état d'urgence date du 30 juillet 2016. En Côte d'Ivoire, fin jeudi à Abidjan de la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence. Dans son discours de clôture, le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est revenu sur les défis qui jalonnent la longue marche vers l'émergence. On l'écoute.
Ce sont notamment la paix et la sécurité qui constituent des préalables à tout développement. La bonne gouvernance à travers une lutte acharnée contre la corruption et la fraude. La maîtrise de la démographie et de l'urbanisation, le défi du développement du capital humain, la diversification des économies et l'accélération de l'industrialisation, l'intégration économique et le renforcement des échanges intra-africains à travers l'exploitation des avantages comparatifs et compétitifs. Les travaux de la conférence ont mis fort judicieusement l'accent sur l'emploi des jeunes, un des plus grands défis du continent.
Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Au Sénégal, le mouvement Yan Amar a appelé tous les Sénégalais à se mobiliser le 7 avril dans une grande manifestation pour dénoncer ce qu'il appelle les dérives du pouvoir du président Macky Sall. Une campagne de contestation baptisée « Trop, c'est trop ». Malal Tala, dit fou malade, un des leaders de Yan Amar, énumère les raisons de cet appel à manifester contre le chef de l'État sénégalais.
Il n'y a pas une grande différence entre Macky Sall et Wade, parce que les principes pour lesquels nous combattions Wade, c'est les mêmes principes pour lesquels nous sommes en train de combattre Macky Sall. Parce qu'il s'inscrit en porte-faux avec ses engagements. C'est la même chose, c'est les mêmes pratiques politiciennes qui continuent. Et les Sénégalais en ont marre de tout ça. Macky Sall a promis 5 ans, il faut qu'il respecte son engagement. La parole donnée doit être respectée.
Malal Tala dit fou malade à Dakar au Sénégal. Le Nigeria est confronté à une grave pénurie de vaccins pour contenir une épidémie de méningite qui a déjà fait 282 morts depuis novembre. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Le chef du centre nigérien de contrôle des maladies, Chikwe Iyekwazu, a fait état de près de 2000 suspicions de méningite signalées dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Selon lui, 109 cas ont été confirmés et il y a eu 282 décès. La méningite de type C, responsable de l'épidémie, est rare au Nigeria et il existe un stock limité de vaccins dans le monde. Pour l'état de Zamfara, on estime qu'environ 3 millions de doses de vaccins seront nécessaires. L'OMS a livré 500 000 doses pour un programme d'immunisation qui doit démarrer le 11 avril. Une équipe travaille à déterminer le nombre total de doses nécessaires pour contenir la propagation de la maladie qui touche 15 des 36 États du pays et le territoire de la capitale fédérale, Abuja. En 2015, plus de 13 700 personnes ont été infectées et plus de 1100 sont mortes de la méningite au Nigeria et au Niger voisin.
RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait approuver aujourd'hui, sauf surprise, la réduction de 7% environ du nombre des militaires et policiers de la force onusienne de maintien de la paix dans le pays. Mais les effectifs de la MONUSCO resteront très importants, Abdourahmane Dia.
Malgré cette réduction, la MONUSCO restera forte de plus de 18 000 hommes. Cette décision de diminuer les effectifs est en contradiction avec la volonté du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a récemment demandé au Conseil de sécurité d'envoyer 300 policiers supplémentaires à cause de la situation politique tendue en RDC. Le mandat du président Joseph Kabila a expiré et la classe politique n'arrive toujours pas à s'entendre sur les modalités d'application de l'accord du 31 décembre. Les élections doivent être organisées avant la fin de cette année. Washington, premier contributeur des opérations de maintien de la paix, ne cache pas sa volonté de réduire sa participation dans les dépenses de l'ONU. La France, qui avait récemment mis en garde contre des coupes drastiques dans les effectifs et le budget alloué à la MONUSCO, s'est néanmoins dissatisfaite par le projet de résolution qui sera en principe adopté aujourd'hui.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis maintenant. Ici à Washington, la commission du renseignement du Sénat a commencé des audiences publiques sur l'ingérence présumée de la Russie dans les dernières élections américaines et la possible collusion de Moscou avec l'entourage du président Donald Trump. Solange Nyamulisa fait le point.
L'enquête ira jusqu'au bout, ont assuré le sénateur républicain Richard Burr, président de la commission du renseignement du Sénat, et le sénateur Mark Warner, principal membre démocrate de cette commission. Celle-ci passera en revue une multitude de documents et interrogera diverses personnalités, notamment Jared Kushner, proche conseiller et beau-fils du président Trump. Ni le président de la commission du renseignement du Sénat, ni les membres démocrates n'ont révélé une quelconque conclusion formulée à ces stades en dehors des desseins de la Russie. Les sénateurs démocrates Mark Warner.
L'objectif de Poutine est d'affaiblir les États-Unis sur le plan économique et globalement. Ceci devrait préoccuper tous les Américains, quelle que soit leur affiliation politique.
La commission du renseignement de la Chambre des représentants avait pris l'initiative d'enquêter sur l'ingérence russe. Mais elle a annulé cette semaine les audiences publiques prévues à cet effet en pleine tempête politique autour de son président républicain Devin Nunes. Ces derniers avaient pris la décision controversée d'informer le président Trump au sujet des documents classés secrets qu'il n'avait pas encore partagés avec sa commission. Malgré les assurances d'impartialité du président de la commission du renseignement du Sénat, un nombre croissant de législateurs démocrates doute que la vérité puisse être connue tant que l'enquête sera aux mains des commissions législatives contrôlées par les républicains. Un point de vue exprimé par le sénateur démocrate Martin Enrich.
Je pense que nous devons être ouverts à une commission indépendante non-partisane pour mener une enquête sur ce qui s'est passé. On ne peut pas permettre à la pression politique ou aux distractions sans fondement de brouiller les faits.
La Maison-Blanche s'est plainte d'une campagne de dénigrement de l'équipe du président, mais a tout de même reconnu le besoin de faire progresser l'enquête. Sean Spicer, porte-parole de la Maison-Blanche.
Nous voulons que ceci prenne fin le plus tôt possible, tout comme certains d'entre vous, j'ose le croire. Mais nous reconnaissons qu'il y a un processus à suivre.
Les conclusions de l'enquête pourraient résonner bien au-delà de Washington. Selon le sénateur Richard Burr, la Russie est activement impliquée dans les futures élections en France.
Conflit en Syrie, le sort du président syrien Bachar al-Assad sera décidé par les Syriens eux-mêmes. C'est ce qu'a affirmé jeudi le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Il s'agit de la première prise de position publique à ce sujet de la nouvelle administration américaine. Jacques Aristide.
Le chef de la diplomatie américaine s'exprimait lors d'une visite en Turquie aux côtés de son homologue Mevlut Cavusoglu au lendemain de l'annonce par Ankara de la fin de son opération militaire dans le nord de la Syrie. Le conflit, qui entre dans sa septième année, a fait plus de 310 000 morts. L'opposition syrienne réclame le départ du président Assad, tout comme l'a fait pendant longtemps l'administration de Barack Obama. Mais jusqu'à hier, le nouveau gouvernement américain n'avait pas ou peu donné de signes sur son implication diplomatique. Pour des observateurs, la position exprimée par Rex Tillerson en disant qu'il appartient aux Syriens de trancher rejoint la ligne défendue par Moscou, l'un des principaux alliés d'Assad. Le secrétaire d'État américain a par ailleurs déclaré que Washington et Ankara partageaient le même objectif qui est de vaincre le groupe État islamique. La Turquie affirme de son côté vouloir travailler avec ses alliés, mais sans les milices kurdes, à la reconquête de Raqqa, la capitale de facto du groupe État islamique en Syrie.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. www.voixdamerique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.